René Boislève, la partie carrée. Monsieur et Madame Bellambre déjeunaient tête à tête et ne se disaient rien. Un hôtel magnifique était visible par la grande baie. Des marronniers roussis, un sycomore ayant conservé sa verdure, et des platanes au feuillage grisonnant et doré tonifiaient la lumière débile de Paris. En sorte que, tout aussi bien du jardin que de la salle à manger et de la table ébouriffée de chrysanthèmes, une sorte d'invitation semblait adressée par les choses à goûter ce que la vie offre parfois le charmant. Et à cette gracieuse invitation, monsieur et madame répondaient par un refus catégorique. Ils niaient le bien-être matériel qui les pénétrait malgré eux, comme y fait un parfum ou la douceur atmosphérique. Il niait la beauté du jour. Monsieur était encombré, paralysé, suffoqué par la seule présence de madame, et exactement de même madame par la présence de monsieur. Ils grignotèrent maussadement leurs côtelettes en se disant l'un « Oh, je suis là, rivé à cette femme par les convenances modernes. » Pendant qu'Héléna, ma maîtresse chérie, perd elle aussi de belles heures de sa vie et peste chez elle parce que je ne peux déjeuner en sa compagnie. Et l'autre, ah, voici vis-à-vis de moi un homme de qui tout, jusqu'au moindre geste, m'horripile. C'est avec lui que je dois consumer mes journées et mes nuits, tandis qu'un autre dont tout me plaît me désire, en vain m'attend sans cesse, se ronge de n'avoir que furtivement. Le domestique passe les plats à madame et à monsieur, et son piétinement qui faisait teinter les cristaux dans le silence était gênant. Et il se disait, lui, « Est-il possible d'être si riche et de se rendre plus malheureux que le dernier des purotins ?» Enfin, le pitoyable repas achevé, monsieur et madame étant passés au fumoir, les portes closes, le mari qui semblait mûrir à part lui un projet, en exhala le préambule avec la première bouffée de son cigare. « Mon cher ami, dit-il, j'ai beaucoup réfléchi. Nous nous embêtons. »« Oh, royalement, dit madame. Oui, voilà à quoi nous tombons d'accord. Eh bien, j'ai le bon espoir d'avoir découvert tout un terrain où nous pourrions nous supporter parfaitement. » Je suis curieuse de le connaître. En voici en deux traits le dessin. Nous jouons franc jeu, nous ne mâcherons pas les mots. C'est entendu. Notre situation devient critique, disons hardiment, intolérable. Or, moyennant un peu de bonne volonté de part et d'autre, il nous est possible de l'améliorer, laissez-moi dire, et plus encore, il nous est possible de la rendre quasi agréable. Ah oui, vous êtes sceptique, vous riez. Allons, n'eussé-je abouti qu'à ce résultat. Mais j'arrive au fait. Dépêchez-vous, je vous en prie, car le coiffeur m'attend à 2 heures. Oh, Dieu me garde de faire attendre le coiffeur. Voici ce que je vous déclare après mûre délibération. Je ne m'oppose pas à ce que vous receviez ici, monsieur de Genroy. Ah, ce n'est pas malheureux. Et laissez-moi vous dire que vous y gagnez, car le choquant eût été qu'un homme de votre monde et de votre cercle se vit refuser libre entrée dans notre maison. Laissons de côté ce qui est choquant, ce qui ne l'est pas. J'y perds mon catéchisme. Je ne sais plus où un désordre moral se place, du moment que le seul et véritable scandale serait qu'un mari et une femme qui sont l'un à l'autre insupportables en vinssent à déclarer « Nous ne nous supportons pas. » Ce n'est pas moi qui fais les mœurs. Mon dessein est cependant de vous convier à leur donner de complicité avec moi un léger coup de pouce. Oh, mon ami, je vous avertis, n'entendez pas de moi la plus petite complaisance qui puisse frapper les usages. Reprenons les choses par le commencement. Je viens de vous autoriser à recevoir M. de Genroy. Et je vous ai fait observer que rien ne peut être plus correct. Parfait, parfait. Je prends acte, ma chère amie, je prends acte. Monsieur de Genroy viendra donc ici quand bon lui semblera ou vous plaira. Cela ne blesse en rien les usages. Il s'assoira à notre table entre vous et moi. Oui, monsieur de Genroy animera la conversation qui en a bien besoin. D'accord. Et si gênante que soit ma présence, vous causerez volontiers avec monsieur de Genroy, qui aura grand plaisir à vous donner la répartie. Oui, j'ai la fatuité de le croire. Mais pourquoi ce ton mystérieux et cet air d'ourdir un complot? Voilà rien d'anormal. Parfait, parfait. Et l'arrangement, parbleu, sans doute vous suffit. Et vous trouvez, vous, la difficulté résolue? J'aperçois, moi encore, un petit point noir. Veuillez m'écouter. Là, outre monsieur de Genroy et vous à table, il y a quelqu'un, oh, souvenez-vous-en de grâce. Mais il y a vous, mon ami. Mais oui, il y a moi, moi qui suis là, assis vis-à-vis de vous-même, et à côté de ce monsieur. Cela ne fait pas de doute, c'est votre droit, c'est votre place. Comment donc? Eh bien, usant de mon droit, assis à ma place, madame, est-ce que je m'amuse, moi, s'il vous plaît? Mais la conversation se trouve animée, avons-nous dit. Vous êtes un homme bien élevé, vous y prenez part. J'y prends part, eh mon Dieu, oui, c'est gai. Ah, s'il vous faut sauter de l'ennui mort dans l'allégresse, vous êtes bien ambitieux, faites venir une troupe. Non, je me contenterai un meilleur marché. Ah, mon ami, je ne vous comprends pas du tout. Mon ami, si je vous ai proposé d'inviter chez vous monsieur de Genroy et non pas tel ou tel, c'est parce que j'étais d'avance certain que ce choix vous serait agréable, vous serez le plus agréable. Mais trop gentil, tout à fait gentil à vous. Mais je ne vois toujours pas où vous voulez en venir. Non, vous ne voyez pas. Ah, que la femme est donc exquise en ses actions comme en ses abstinences. Vous ne voyez pas. Il ne vous vient pas à l'esprit, cher ami, que si je prends l'initiative de m'imposer pour vous plaire la présence d'un homme que, d'un homme que je n'irai certainement pas choisir pour me tenir compagnie, si j'étais réduit à la solitude, il ne vous vient pas que je puisse, ce faisant, nourrir quelque arrière-pensée. Il ne me vient en vérité rien. Je vous ai jugé dans l'occasion galant homme et désintéressé. Eh bien, ma bonne, il en faut rabattre. Dussé-je me diminuer à vos yeux, définitivement, je ne suis pas désintéressé. Ah bah, nullement désintéressé. Oh, je vous en fais mille excuses. Mais alors? Eh bien, alors, si tant est que j'ai été pour vous galant, madame, que diable à vous de m'humilier par votre magnanimité? Quoi? Comment? Vous seriez l'audace? Mon Dieu, oui, d'attendre de vous tout autant que j'ai fait moi-même en votre faveur. Vous voulez que j'invite en retour, moi? Que vous invitiez qui donc? Une femme de votre monde? Mais une étrangère de qui le mari est au diable. Ah, mais je ne vous demande pas d'inviter le mari. Oh, mais c'est trop fort, je ne vous ai jamais cru capable d'un pareil cynisme. Soit, faire mon entretien et aller à votre coiffeur. En ce cas, admettons que nous venons de rompre notre habituel silence en pure perte. Nous ne parlerons plus, mais entendez-moi bien, nous ne parlerons plus du tout de ce qui a été dit entre nous. Ce qui signifie que je ne permettrai pas qu'on ouvre la porte de cette maison à monsieur de Genroy. Dans l'instant précis que le coiffeur répandait les ondes de la chevelure de madame Bellambre, Celle-ci combinait un premier dîner, presque intime, où seraient priés entre autres non seulement M. de Genroy, mais Elena Porfiropoulou, une grecque qu'elle détestait dans la mesure où M. Deslambres chérissait cette fort belle personne. Ce petit dîner marcha tout à fait bien. Par un hasard heureux, la grecque ne porta pas trop ombrage aux autres femmes, l'une d'elles ayant jugé sans appel stupide et l'autre s'escrimant à insinuer que cette Rasta avait joué durant la guerre un rôle incertain. Monsieur de Genroy, lui, fut pour la grecque plein d'indulgence, sans toutefois en manifester à l'excès. Mais son opinion était que ces étrangères aux yeux caressants introduisent dans nos rapports parfois guindés et un peu d'aise. Voulez-vous venir déjeuner avec elle un de ces jours, tout à fait entre nous ? Ainsi, et sans anicroche, se trouva réalisée la combinaison audacieuse élaborée par M. Deslambres aux abois. Il y eut quelques déjeuners ensoleillés dans la riante salle à manger, donnant par sa grande baie vitrée sur un radieux automne. La conversation était très facilement générale. M. de Genroy ayant voyagé en Grèce, où Mme Porfiropoulou, qui était née à Constantinople, n'avait jamais été, mais sur quoi elle avait cru devoir se documenter amplement. Outre cette circonstance, l'étrangère et Genroy étaient musiciens, et ils chantaient. « Comment ? Vous êtes pris du conservatoire ?» dit Mme Deslambres à son tendre ami. « Mais vous ne m'aviez jamais dit, cachotière, que vous aviez de la voix ?» disait à la belle grecque M. Deslambres. On rouvrit le pleyel à queue, fermé depuis des années comme une tombe. Et toute la maison parut s'éveiller avec les airs anciens de l'Attique et du Péloponnèse qui s'échappaient du gosier de la grecque, sous l'impulsion du rythme savamment marqué par cet amateur de talent qu'était le séduisant Genroy. Il arrivait que la femme de chambre et le maître d'hôtel demandassent à madame « Est-ce que monsieur et cette dame ne déjeunent pas aujourd'hui ?» Ils ne pouvaient pas cependant déjeuner tous les jours. Mais on les faisait inviter dans les maisons où l'on dînait le soir, sous le prétexte de la beauté des champs du Péloponnèse. Et ils avaient beaucoup de succès. Et ils furent invités l'un et l'autre chez une grande dame américaine, où ne fréquentaient pas les Deslambres, ce qui au prochain déjeuner de ceux-ci leur fut prétexte à des apartés, dont leurs hôtes en vérité se montrèrent quelque peu jaloux. La première fois que Genroy se retira en même temps que Mme Porfiropoulou, on n'y prit pas garde. Mais la seconde, Genroy ayant dit « Madame, puisque vous allez de mon côté, voulez-vous profiter de ma voiture ?» On y fit attention. Deux jours après, le duo au Pleyel allait si bien, ma foi, si bien. On ne sait à quoi se mesure le degré de perfection d'un duo, que les Deslambres, par un déconcertant accord, se trouvèrent sans s'être donné le mot ensemble, tous les deux seuls, dans la pièce voisine. Madame, étendue sur un sofa et agitant nerveusement sa mule, monsieur, tapotant les glaces de la porte-fenêtre, illuminée par l'étincelante automne. Et la musique d'aller de son train, et le folklore hellénique de répandre ses étranges saveurs dans le salon sans auditoire, et le dialogue alerte entre les deux artistes de succéder au chant passionné. Et tout à coup, la voix du domestique, s'adressant à l'étrangère, « La voiture de madame est avancée !» Et la voix cristalline de Mme Porfiropoulou, « Tiens, mais où sont passés nos chers hôtes ?» Sur quoi les Deslambres, sans s'être davantage donné le mot, se trouvèrent à pas de loup, gravissant l'escalier, puis postés chacun à une fenêtre du premier étage, d'où ils virent M. de Genroy et Mme Porfiropoulou, montant familièrement, comme chez eux, dans la même voiture.